We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de cette extraordinaire émission qui est devenue Passerelle PME, pratiquement culte dans tous les pays du monde, mais particulièrement la France pour le moment. Passerelle PME, donc qui vient vous raconter un peu ce que les grands groupes français ou internationaux présents sur notre territoire font pour les PME. Et aujourd'hui, nous avons l'homme de la situation, celui qui est au cœur de l'actualité de cette passerelle, puisque c'est le nom de cette émission, entre les grands groupes et les PME, Emmanuel Leprince, directeur général de Pacte PME. Bonjour Emmanuel Leprince.
Bonjour, je suis absolument pas l'homme de la situation, mais vous allez le découvrir plus tard.
Très bien, on aime les surprises, surtout quand elles viennent tard au moment du dessert. Alors, on va refaire un petit retour en arrière, flashback un peu sur Emmanuel Leprince, d'abord pour connaître son parcours, comment il est arrivé là et qu'est-ce qu'il passionne dans ce sujet-là. Et puis on va parler de l'institution et puis de ses projets, donc on pense à ces minutes qui vont nous occuper, on va vraiment faire un petit tour de piste de tout ce que fait Pacte PME aujourd'hui pour les PME, parce qu'il y a forcément encore beaucoup d'entreprises qui ont besoin de savoir ce que vous faites, comment vous le faites et comment elles peuvent vous rejoindre. Donc d'abord, parcours personnel en quelques mots, Emmanuel Leprince, d'où venez-vous? Qu'avez-vous fait avant Pacte PME?
Ah, j'ai toujours fait Pacte PME. En quelques mots, moi j'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer des dirigeants de PME,
oui,
très convaincants, il y a 22 ans à la sortie de mon service militaire, et qui m'ont expliqué, parce que je travaillais un petit peu avec des PME à cette époque-là,
oui,
qui m'ont expliqué les malheurs qu'ils rencontraient. C'était des patrons de PME brillants, qui avaient des bons produits, des bonnes équipes,
oui,
ils faisaient 60-70 personnes en moyenne par entreprise, et qui m'ont expliqué que malgré ça, ils avaient du mal à se développer. Pire que ça, qu'ils risquaient de disparaître parce qu'il y avait un plafond de verre,
oui,
rencontré malgré la qualité de leurs produits. Et puis l'idée est venue, comme ça en discutant, de créer l'association française des meilleurs PME. On appelait ça les PME innovantes, donc le comité Richelieu à l'époque.
D'accord.
Pour essayer qu'ensemble, elles puissent peser plus sur leur propre destinée et briser ce plafond de verre. Et particulièrement, c'était déjà l'angle il y a 22 ans, donc les relations entre ces PME et les grands clients, en considérant que c'était là que les choses étaient difficiles. Et que c'était d'abord ce sujet, le chiffre d'affaires, sur lequel il fallait agir.
Et vous, vous destiniez à faire ce genre de choses? Vous aviez quoi en tête avant de rencontrer ces gens très motivés et très persuasifs?
Moi, j'avais rien en tête, j'avais plein, oui, de choses hors de la tête. C'est-à-dire que moi, j'avais, oui, fait Centrale, j'ai
d'accord,
Centrale à Paris, et j'ai fait des stages, en particulier dans des grands groupes, qui
d'accord,
m'avaient fait décider qu'il y avait des endroits où je ne voulais pas aller. Mais je ne savais pas où aller. Donc en fait, ce sont surtout
d'accord,
les rencontres. Hein. Certains,
oui,
disent qu'il n'y a pas de...
Oui.
Hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres.
Oui.
C'est les rencontres qui m'ont fait, avec les autres d'ailleurs, créer le comité Richelieu, qui s'est, je dirais, dans la mission, s'est agrandi, et le comité Richelieu maintenant est sur des actions de lobbying en faveur des,
oui,
PME, quel que soit le sujet. Et puis le Pacte PME, qui est un petit peu un enfant du comité Richelieu, et puis d'Oseo, et puis du ministère de la Défense également, est centré sur cette action.
Alors, du coup, la forme est quoi? Alors, à l'origine, c'est donc des entrepreneurs, c'est une initiative purement privée faite sous forme d'association. Comment ça se passe juridiquement à l'origine?
On parle bien du Pacte PME.
Oui.
Le Pacte PME, c'est une association, justement, c'est l'originalité, c'est une association paritaire, c'est-à-dire,
d'accord,
qu'elle regroupe avec le même poids les PME d'une part, les grands groupes d'autre part.
Très bien.
Son objectif, c'est d'améliorer, renforcer les relations entre les deux parties.
D'accord.
Et donc, c'est la seule organisation en France qui soit strictement paritaire. Et ça lui donne un positionnement qui est assez intéressant.
D'accord. Du coup, comment vit-elle alors, financièrement?
Ouais. Elle vit depuis le mois de juin 2010. Donc, c'est une start-up,
ouais,
comme,
ouais,
comme d'autres.
Ouais.
Mais néanmoins, elle est déjà équilibrée au niveau de son budget,
oui,
puisqu'en fait, elle fait suite à un certain nombre d'actions antérieures. Concrètement, le budget vient pendant 3 ans pour une part importante, mais minoritaire, des pouvoirs publics, la DGSIS,
oui,
que nous remercions bien sûr ici une nouvelle fois. Et puis, le reste du budget vient des grands groupes, qui payent des cotisations annuelles qui s'élèvent à 10 000 euros. Et également, les PME. Alors, les PME elles-mêmes ne sont pas membres.
D'accord.
Ça fait trop d'adhérents. Hein. Ce sont des organisations professionnelles, comme le MEDEF, comme la CGPME, comme le CJD Réseau Entreprendre ou le comité Richelieu, qui sont membres, il y en a 18 aujourd'hui. Il y a également 12 pôles de compétitivité. Toutes ces structures-là sont représentées par des PME, c'est elles qui font l'équilibre, et elles payent également des cotisations qui sont de 1000 euros par an.
D'accord.
Par organisation.
D'accord. Alors, pour ceux comme moi qui ont connu dans les mêmes locaux le comité Richelieu et le pacte PME, en quelques mots, que fait le comité Richelieu par rapport au pacte PME?
Alors, le comité Richelieu, ce qu'il faisait,
oui,
c'était que il hébergeait le programme Pacte PME, c'est-à-dire qu'il,
d'accord,
menait, avec le soutien d'Oseo, un programme ouvert à toutes les PME françaises, pas uniquement ses membres, pour les aider à travailler avec des grands groupes.
Mmh.
Et puis on s'est aperçu, le contenu de ce programme, c'était principalement des rencontres entre des PME et des grands groupes. Et ça a bien marché, c'était élu 2 fois de suite meilleure mesure européenne en faveur des PME, en,
d'accord,
2007-2008.
D'accord.
Mais on s'est aperçu qu'on atteignait nos limites avec cette gouvernance, et que si on voulait avancer, il fallait non seulement faire que les gens se rencontrent, mais que le comportement après ces rencontres, des grands comptes, des acheteurs, etc., évoluent pour qu'ils s'adaptent à la prise de risque, etc., aux relations avec les PME, pour que ça fonctionne vraiment. Et notre analyse, c'est que pour que ce comportement change, ce qu'il fallait, c'était changer la gouvernance du programme, qu'il sorte du comité Richelieu, ce qui a été très courageux de la part du comité Richelieu, et qu'il soit hébergé par une association ad hoc, qui s'appelle Association Pacte PME, dans laquelle les parties prenantes sont aux manettes, hein, puisqu'on a, je disais tout à l'heure, qu'on a 14 administrateurs grand groupe et 14 administrateurs PME. Et le président, depuis hier, est Fabrice Brégier, le directeur général d'Airbus.
Très bien. Alors, Pacte PME, en quelques mots, aujourd'hui, il y a la partie Pacte PME, j'allais dire, naturellement, et puis il y a la partie Pacte PME internationale. Donc, le plafond de verre que vous évoquiez tout à l'heure, il est autant pour la croissance, j'allais dire, interne, nationale, intramuros presque, que la croissance internationale, ou vraiment le vecteur aujourd'hui, parce que c'est une faiblesse française, est vraiment tout mettre sur l'international.
Les deux, mon colonel, je crois.
Oui, il manque encore quelques galons.
Oh, mais bon. Premièrement, la France est 5% du marché mondial. Donc, dès qu'on parle de développement, il faut qu'on parle d'international. Oui. Ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, la question est, sur cette problématique de relation PME grand compte, est-ce qu'il faut travailler sur cette problématique-là à l'étranger ou en France? Et là, l'analyse, là, c'est de dire qu'il faut d'abord avoir des marchés en France, pour avoir des références, et après, et une certaine force d'ailleurs, pour après faire de l'exportation. Oui. Donc, on se concentre au niveau du Pacte PME sur le déverrouillage, si je peux me permettre, des relations entre les PME innovantes et les grands comptes en France. Ceci étant dit, pour que ce déverrouillage fonctionne, on a deux axes, qui sont premièrement l'innovation, donc faire en sorte que les grands comptes, malgré ou en parallèle d'une politique de globalisation des achats, de massification des achats, de diminution du nombre de fournisseurs, puissent, en parallèle de ça, adapter ses process à l'innovation pour pouvoir quand même être en relation avec des PME innovantes, parce qu'ils se rendent compte, ou la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont au Pacte PME, se sont rendus compte que, bien sûr, il faut diminuer les coûts, bien sûr, il faut diminuer le panel de fournisseurs, mais ça pose des problèmes en termes d'innovation. Donc, il faut réfléchir à la façon, en parallèle, d'une manière proactive, on peut remettre de l'innovation, et donc ça c'est créer des relations quand même avec des PME innovantes à la marge. Et deuxième angle, le renforcement, c'est-à-dire que les grands comptes ont raison de vouloir travailler avec quelques partenaires stratégiques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide aujourd'hui à remettre des relations avec des PME innovantes, et on se place après dans la durée pour que ces PME innovantes, on les fasse grandir tous ensemble. On est 34 grands groupes, à 34, on agit pour faire grandir plus vite les PME que un des grands groupes va vouloir parrainer.
D'accord.
Pour que, effectivement, dans 5 ans, ces PME innovantes qui retravaillent avec les grands groupes aujourd'hui puissent devenir des partenaires stratégiques, donc plus grandes, de ces grands groupes, pour qu'on reste dans cette logique légitime des grands comptes de vouloir avoir des partenaires stratégiques, mais qu'on puisse y insuffler de l'innovation et de la compétition.
Est-ce que c'est-à-dire que dans le lobbying, le fait de travailler au niveau européen ou autre sur ce fameux Small Business Act dont tout le monde parle depuis si longtemps et qu'on connaît, enfin pour ceux d'entre nous qui ont travaillé aux États-Unis, qui dopent de façon incroyable un nombre, notamment à Washington, de jeunes et petites entreprises, que moi j'ai vu passer pendant 3 ans là-bas de 10 à parfois 200 personnes en moins de 3 semaines sur un marché, ça fait partie aujourd'hui de vos combats ou d'essayer finalement de le faire entre amis, j'allais dire, entre ces grands comptes et ces PME qui vous suivent aujourd'hui?
Oui, le Small Business Act, c'est une loi, donc une obligation,
qui
donc ne concerne que les grands comptes publics, ceux qui peuvent être obligés.
Tout à fait.
Et par contre, il concerne toutes les PME. En Allemagne, ils font la même chose, sans loi. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les PME et les grands comptes travaillent ensemble de manière un peu naturelle, parce qu'ils sont habitués à travailler en région, dans les lenders, etc. Et donc, les grands comptes ont des écosystèmes de PME qu'ils arrivent à faire grandir, avec lesquels ils font un partage de marge équitable pour que ces PME puissent grandir. Donc ils ont une vision moyen terme de leur tissu d'entreprise sans avoir besoin de Small Business Act.
Ouais.
C'est ce qu'on essaie de faire en France avec le Pacte PME, donc, qui est un petit peu un Small Business Act d'initiative privée, mais qui impose de ne travailler que en faveur des PME qui peuvent apporter quelque chose aux grands groupes.
D'accord.
Donc on est plus, entre guillemets, élitiste, si je peux me permettre, que le Small Business Act.
Ouais.
Notre but, c'est de dire, aujourd'hui, si on ne fait rien, les PME, même les bonnes, ont beaucoup de mal à travailler des grands groupes, parce qu'il y a plein de freins dont on pourrait parler.
Tout à fait.
Nous, ce qu'on veut, c'est que celles qui sont bonnes, puissent quand même travailler des grands groupes. C'est ça le sujet.
Ouais. Et comment les grands groupes que vous avez autour de vous, on va parler d'eux tout à l'heure, réussissent à dénouer cette équation difficile entre restructuration, baisse des coûts permanentes et justement faire une petite place à des PME dont on sait très bien que T'es avec Jean-Bernard Lévy, le patron de Vivendi, il y a peu de temps, qui disait, bah, finalement, l'innovation, elle est pas trop dans les grands groupes, elle est vraiment dans les petites structures. Et on s'y a plus de petites structures que les grands groupes ensuite rachètent, d'ailleurs, quand elles ont innové, grosso modo, où va-t-on aller chercher l'innovation? Donc, voilà. Comment est-ce qu'elle se résout tout ça? Quand on a fait centrale et des maths, du coup, on est dans les équations. Comment vous résolvez cette équation?
Non, c'est pas une équation, c'est la quadrature du cercle.
Exactement.
Donc, bah, la façon de résoudre, enfin, très 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 humblement et modestement, c'est de mettre de rajouter la dimension du temps là-dedans. Et donc de dire, aujourd'hui ça marche pas. Si on prend la photo et si on approche court-termiste de l'économie, les relations entre les PME et les grands comptes, ça ne fonctionne pas. Parce qu'une PME, même innovante, même brillante, ça n'apporte de retombées réelles et pérennes aux grands comptes que dans un certain temps. L'innovation, il faut du temps pour l'incorporer, etc. Donc, un grand compte qui se dit, moi, mon but unique, en termes de politique achat, c'est de faire moins de 10% dans le trimestre, on n'a pas grand chose à faire avec lui. Mmh. Celui qui dit, mon but, c'est de faire moins de 10% dans le trimestre, mais aussi, de faire en sorte que je remette de l'innovation et de la compétition dans le tissu de partenaires stratégiques, ce dont je parlais. Et je suis conscient que pour ça, il me faut un peu de temps. Il faut qu'aujourd'hui je travaille et que je fasse des efforts, que j'accepte d'accompagner un peu le développement de certaines PME, mais dans mon intérêt dans 5 ans.
Bien sûr.
Ceux-là, on travaille avec eux, ils sont au pacte PME. Donc, pour répondre plus précisément à la question, ça passe par une décision de la direction du grand compte, et non pas de la direction des achats, de la direction qui conforte la direction des achats dans cette logique. Si la direction du grand compte dit toujours à la direction des achats, vous faites moins 10%, pointez la ligne, les acheteurs, ils font leur boulot. Si elle leur dit, vous faites ça, mais à côté de ça, vous avez une politique proactive en faveur pour avoir un écosystème dynamique dont on a besoin dans 3 ans, dans 5 ans, là, ça délie les mains des directions des achats, et nous, on travaille concrètement avec eux pour qu'ils adaptent leurs procédures.
D'accord.
Hein, à cette mission un peu élargie.
D'accord. Donc, pas seulement acheter moins cher, mais acheter mieux. Acheter plus intelligent pour bâtir un futur un petit peu commun. Alors, quels sont justement, on va passer un peu aux membres aujourd'hui, les grands comptes qui ont répondu à cet appel. Alors, bien évidemment, ils sont nombreux, on va peut-être pas pouvoir tous les citer, mais il y en a quand même beaucoup qui sont les premiers, peut-être ceux qui sont arrivés dans les premiers et qui sont vraiment importants pour vous parce qu'ils ont été au fond baptismaux de ce pacte.
Alors, ils sont absolument tous aussi importants les uns que les autres, donc je ne classerai pas par importance.
Bien sûr.
Surtout que je dois boucler mon budget en fin d'année prochaine. Mais je vous parlais simplement, j'en ai des exemples pour montrer la typologie en fait de grands comptes. Donc parmi le pacte PME, il y a des grands groupes totalement privés.
D'accord.
Du type, je vais citer Siemens par exemple.
Oui.
Vous avez des, à l'autre bout du spectre, vous avez des ministères, vous avez le ministère de la Défense, en tout cas la DGA, le ministère de l'Intérieur, donc la police nationale, qui est intéressée par les PME. Vous avez des collectivités locales comme la ville de Paris, comme le conseil régional de France, pour leurs achats, pas pour leur politique en faveur des entreprises. Vous avez des entreprises publiques, comme EDF, la SNCF, la RATP. Voilà un petit peu la population. Donc 34 grands comptes aujourd'hui. Et notre président nous a fixé comme objectif pour la mi-2012 de regrouper 100 grands comptes. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fixé cet objectif et a ajouté qu'il s'en occuperait personnellement. Donc,
très bien.
on va l'épauler, bien sûr, là-dessus.
Donc aujourd'hui, PAC PME, c'est une équipe de combien de personnes?
C'est une équipe de 8 personnes aujourd'hui.
D'accord. Et alors, vous venez de déménager, vous êtes dans des locaux tout neufs dans lesquels vous nous accueillez aujourd'hui. D'ailleurs, on sent une petite odeur de peinture fraîche. Voilà, c'est agréable.
Ils sont moins chers pour mètre carré que les locaux précédents, puisque nous faisons plutôt des économies que l'inverse.
Puis dans une rue historique, parce que c'est quand même là où est né le Silicon Sentier, notamment. Donc, on reste dans l'économie numérique. Alors, aujourd'hui, pour revenir maintenant un petit peu à l'international, dans ces dernières minutes que nous allons passer ensemble, est-ce que on parle d'exportation ou d'international ou des deux, en général, à nouveau?
Alors, nous, on parle d'une seule chose. On parle, alors, le terme pompeux, c'est portage stratégique.
Oui.
Ça veut dire faire en sorte que les PME qui sont aujourd'hui déjà des fournisseurs en France, des grands groupes français, on parle que de celles-là.
Oui.
Et celles d'ailleurs qui font, si possible, des fournisseurs un peu stratégiques de ces groupes-là, que celles-là, les grands groupes les amènent avec elles à l'international.
Oui.
Déjà, si ça se faisait, ça serait une bonne chose.
Oui.
Et pour le faire concrètement, on a deux axes. Le premier, c'est faire en sorte que ce soit pas forcément le grand groupe client en France qui apporte la PME en Chine, mais que ça puisse être éventuellement un autre des groupes du pacte PME, qu'on mutualise un peu cette démarche.
Bien sûr.
Parce que pour qu'une PME française aille en Chine, il faut qu'elle fasse un chiffre d'affaires suffisant là-bas pour que ça vaille le coup pour elle.
Oui.
Donc il est important de mutualiser ce portage. Donc c'est du portage stratégique dans le sens où on ne porte pas que, mais principalement, les PME qui sont déjà des fournisseurs en France. Et le pacte PME a d'autres programmes pour aider une PME qui n'est pas fournisseur en France à le devenir.
D'accord.
Mais on intervient en aval de ça. Et deuxièmement, on a toute une problématique de contenu local. C'est-à-dire que lorsqu'un grand compte français veut exporter dans un pays étranger, très souvent, on lui demande de travailler avec des entreprises locales. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est essayer de faire en sorte que les PME françaises, celles qu'on veut voir arriver là-bas, puissent facilement accompagner le grand compte et s'implanter en local elles aussi. Que ça puisse être pris en compte dans ces contraintes de compensation.
D'accord.
Ce qui est un point très important pour les grands
comptes. Henri Lachmann avait fait un rapport, il y a deux étés de ça, je crois, sur le portage. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que ça a changé effectivement la façon d'envisager le portage pour les années à venir? Est-ce qu'on se calque, je sais pas, sur les Japonais, sur les Allemands, sur des pays qui ont eu un certain succès là-dessus?
Oui, c'est tout à fait ça. On est en train de se calquer là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait du portage intéressé. Oui. Non pas du portage purement citoyen.
D'accord.
Le portage intéressé n'exclut pas le portage citoyen, mais le portage citoyen n'est pas suffisant.
Oui.
Donc c'est ça. Vous avez tout à fait bien résumé. Pour que ça soit complet, il faut que l'interconnexion entre les actions françaises du pacte PME et les actions internationales du pacte PME international soit faite de manière complète, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont encore deux associations distinctes, mais qui sont hébergées dans les mêmes locaux.
D'accord. Et dernière chose, alors tout à l'heure, vous disiez que les PME étaient représentées par des institutions représentatives, mais néanmoins, des PME qui assistent, j'ai déjà assisté à des choses chez Oseo, notamment, qui rassemblent des grands comptes d'un côté et puis des fournisseurs potentiels de l'autre. Donc c'est-à-dire que la PME qui nous écoute aujourd'hui et qui dit « Tiens, j'aimerais bien, je suis intéressé par cette initiative », est-ce qu'elle doit rejoindre une de ces institutions ou est-ce qu'elle peut venir et bénéficier d'un certain nombre de prestations, de ces rencontres, de ces mises en relation? Comment ça se passe pour un entrepreneur individuel? Alors, finalement,
effectivement, je vous ai absolument pas dit ce qu'on faisait. On a parlé de contenant, mais pas de contenu.
Oui.
Et ça nous fera une prochaine émission certainement. Mais sur le contenu, on a plusieurs actions, dont, vous avez raison, des programmes opérationnels.
Oui.
Et pour participer à ces programmes, ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire.
Oui.
Donc on a sur le site pactepme.org un endroit où les PME peuvent s'inscrire.
D'accord.
Elles n'ont pas besoin d'être membres d'une des structures. Par contre, on a également des groupes de travail qui, là, par contre, sont réservés aux PME désignées par les membres, par les organisations professionnelles membres de la structure. C'est un peu compliqué. Mais c'est la façon dont on a choisi de fonctionner. Et donc, pour s'inscrire, il est nécessaire qu'une PME s'engage, la main sur le cœur, à avoir une vision, elle aussi, long terme, de sa croissance. Et ne pas être là uniquement pour essayer de se revendre le plus vite possible, parce que c'est aussi un frein. C'est-à-dire qu'on demande aux grands comptes de s'investir pour faire grandir leurs meilleurs fournisseurs. Et il ne faut pas que ces meilleurs fournisseurs, 6 mois après, en profitent, mais se revendent. Ils ont le droit de se revendre, ça peut arriver. On n'est pas en train de diaboliser ça.
Mmh.
Mais on demande simplement un engagement à ne pas avoir cet objectif-là uniquement, en tout cas pour le court terme.
Très bien. En mot de conclusion, on milite souvent alors dans nos réseaux réciproques pour faire en sorte que la PME soit un peu plus en valeur, notamment à l'international. Est-ce que Pacte PME se déplace avec les voyages présidentiels?
Ah, ça c'est une question piège. Je dirais qu'on l'a fait.
Oui.
Mais il est aussi nécessaire qu'on ait des résultats à court terme.
Oui.
Et donc on ne fait pas que ça.
Voilà. D'accord. Très bien. Emmanuel Leprince, je vous rappelle, directeur général de cette belle institution qui est Pacte PME, comme vous l'avez dit certainement à une prochaine émission, et puis aussi avec vos grands partenaires qu'on aura le plaisir de recevoir bientôt. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission de Passerelle PME sur WeDoBiz. À très vite. Au revoir.